Lourd, merci à vous d'écouter le 6-9 d'Inter et bon réveil, nous sommes le samedi 27 avril et il est pile 6h.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
6h et un premier point sur l'actualité ce matin, Marion.
Pas si mauvaise la note de la France en écho. Les agences de notation Moody's et Fitch maintiennent leur évaluation de la dette souveraine de la France qu'elles avaient dégradée l'an dernier. Ça veut dire avec AA- et AA2 qu'investir en France reste peu risqué du point de vue des investisseurs, même si nos comptes se dégradent. Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques, affirme le ministre des Finances. Analyse, explication à suivre avec notre invité à 6h20, Stéphanie Villers, économiste chez PwC France. À l'étranger, peut-être une avancée dans les négociations entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Le groupe islamiste indique étudier, je cite, une contre-proposition israélienne concernant une trêve dans les combats à Gaza et la libération d'otages israéliens. On ignore pour l'instant le contenu précis de cette contre-proposition. Le Hamas, lui, exige un cessez-le-feu permanent. La guerre au Proche-Orient et ses secousses ressenties jusqu'en France. À Paris, la direction de Sciences Po a trouvé un accord pour faire évacuer les locaux historiques de l'école investie depuis jeudi soir par une soixantaine de militants de la cause palestinienne, une centaine dans la rue alentour. Tous réclamaient des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans Gaza et l'arrêt des partenariats avec les universités de l'État hébreu. La direction s'est engagée sur un débat interne, la suspension des procédures disciplinaires contre les manifestants. Cette étudiante espère que le mouvement va se poursuivre autrement.
L'objectif, c'est que ça fasse du bruit en France comme ça l'a fait aux États-Unis. Et en Irlande et en Angleterre, il faut que ça le fasse en France aussi. Un mouvement plus homogène fait plus de bruit et aura beaucoup plus d'impact.
Plus tôt dans la journée, la tension était particulièrement montée avec l'arrivée d'une cinquantaine de manifestants pro-Israël. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir. La flamme olympique embarque ce matin vers la France sur le trois-mâts Bellem. Après la cérémonie de passation hier et une nuit à l'ambassade de France à Athènes, la flamme attendue le 8 mai à Marseille avec un public fourni. Et son premier porteur sur notre sol vient d'être dévoilé. Ce sera le nageur de Marseille, Florent Manaudou. Une affaire de famille après que sa sœur a porté la torche à Olympique, constate Gabriella Papadakis. Papadakis, médaillée d'or, elle, de patinage.
Je trouve ça magnifique, d'autant plus que voilà, c'est Laure qui était la première française à Olympie, donc je trouve que c'est vraiment un beau symbole. Ouais.
Et nous serons bien sûr en direct du port du Pirée dans nos journaux ce matin. Encore des retards à l'arrivée des trains sur la ligne à grande vitesse entre Paris, l'Est de la France et l'Allemagne. La rupture d'une caténaire à la mi-journée au niveau de Châlons a beaucoup perturbé le trafic hier, rallongeant les trajets jusqu'à 5 heures. La SNCF annonce des difficultés encore aujourd'hui sur cette partie du réseau. Des travaux complémentaires doivent avoir lieu. En rugby, finale du tournoi des Six Nations pour les femmes aujourd'hui. Les Françaises reçoivent l'Angleterre au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. L'équipe gagnante décrochera le grand chelem puisque chacune est invaincue. Les Bleus comptent sur leur public 27 000 spectateurs pour leur donner de la force, à l'image de Anaël Dehé et Assia Kalfaoui.
Quand on est à 5 mètres de la ligne et qu'on entend tous les supporters dire « Allez, allez, allez !» Quand t'entends le « Ouh !» quand t'es à côté de la fille qui a fait le grand plaquage, t'es là « Oh, c'est bien !»
Franchement, ça nous pousse, ça met les frissons et on se dit « Ok, moi aussi j'ai envie de faire lever la foule et te dire « Ah, ils sont pas venus pour rien !»
Un coup d'envoi de cette finale à 17h45 et puis en foot, le PSG, lui, pourrait être sacré champion de France dès ce soir s'il l'emporte contre le Havre en 31e journée de Ligue 1. Hier, Montpellier et Nantes ont fait match nul un partout.
France Inter.
Et dans le 6-9 ce matin à 7h50, nous recevrons Mathieu Vallet, candidat Rassemblement National pour les élections européennes. Il répondra à nos questions. Et à 8h20, une invitée exceptionnelle dans le grand entretien de la matinale, la présidente directrice du plus grand musée du monde, le Louvre. Le Louvre qui se prépare à participer aux Jeux Olympiques avec une exposition, de nombreux événements aussi. On en parlera avec Laurence Descartes. Vos questions, votre passion pour l'art et le sport, chers auditeurs, au 01 45 24 7000, le standard ouvre à 7h ou dès maintenant sur l'application France Inter.
Et parmi les chroniques à ne pas rater, D.T. à Harry Potter, le compositeur de nos plus grandes musiques de films, et dans la chronique cinéma à 7h15, Laetitia Bernard grimpe aux arbres avec le militant Thomas Braille dans Regards croisés à 7h10. Et encore plus haut, à 8h15, la chronique, on va en reparler, nous fait rêver des étoiles avec l'astronaute française Sophie Adnaud, tout juste diplômée. À 6h04, c'est l'heure justement de regarder le ciel avec la météo. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour les
amis. Bonheur de vous retrouver Céline.
Bonheur également, partagé, oui.
Un ciel bien agité pour ce samedi.
Oui, c'est vrai, on peut le dire. Ciel bien couvert, sauf sur l'est du pays où on aura encore quelques éclaircies aujourd'hui. Un temps relativement sec, mais partout ailleurs, les averses seront présentes, parfois soutenues et localement orageuses. Des orages forts hein, avec des chutes de grêle sont attendues dans l'après-midi, dans la soirée sur l'ouest du pays. Où 8 départements vont passer dans les minutes qui suivent là en vigilance orange, orage, la Charente, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne et le Tarn-et-Garonne. Tout autour de ces départements, c'est vigilance jaune, car ces orages peuvent déborder. La vigilance va d'ailleurs sûrement évoluer dans la journée. À tout ça, on rajoute un vent fort, 100 km à l'heure parfois sous les orages, et puis de la neige encore sur les Pyrénées et les Alpes.
Et pour les températures, en revanche, ça s'améliore.
Oui, ça remonte enfin après 11 jours d'un épisode bien frais. On revient des normales de saison cet après-midi, 13 à 23 degrés du nord au sud. Ce matin, encore un peu de fraîcheur sur la moitié nord, 4 à 10 degrés. C'est déjà beaucoup plus doux au sud avec 11 à 14.
Merci Céline Dacosta, on vous retrouve pour un autre point météo dans une petite demi-heure.
Aujourd'hui sur France Inter, la patronne de Veolia, dans On n'arrête pas l'écho.
Samedi 9h, Alexandra Ben Saïd.
Question sur l'accès à l'eau, sa qualité, son prix, et puis sur cette école de la transformation écologique que vient de lancer le géant mondial, Estelle Brachlianoff est mon invitée.
On n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 9h.
Avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Merci d'écouter Inter, il est 6h06.
Le 6-9 sur France Inter.
Et comme tous les samedis, les bonnes ondes avec Sandrine Houdin qui nous emmène aujourd'hui dans une maison de rêve, une maison qu'on s'arrache chaque week-end à l'affiche complet, figurez-vous, jusqu'en 2025. Alors il ne s'agit pas d'une villa de luxe, mais d'une cabane en bois, sans eau courante. Elle se trouve à Campénéac dans le Morbihan, et c'est la réplique exacte de la petite maison dans la prairie, la série culte plébiscitée par des générations de Français, d'Américains. Bref, elle a fait le tour du monde. Une Bretonne a entièrement reconstitué cette maison dans son jardin. Elle attire des visiteurs qui viennent de toute la France, comme cette famille venue tester cette petite maison.
Ils sont arrivés à 4 et les 4 se sont rebaptisés. Chacun son personnage préféré pour Marion, 26 ans.
C'est Laura. Ah bah oui, j'ai même dormi dans son lit cette nuit.
On entre, montrez-moi.
En plus, j'ai dormi à gauche, là où elle a dormi. Non. Pour être à fond dans le personnage.
Ah ouais, nous voilà chez les Ingalls.
Le rocking chair où Caroline tricotait, la table, le violon de Charles.
Alors, montrez-moi la chambre de Laura.
Faut y aller avec une échelle, c'est très sportif.
Ah oui, c'est raide.
Faites attention à la tête aussi. Hein.
Ça y est.
Sa chambre, sa coiffeuse et sa brosse pour ses beaux cheveux longs qu'elle brossait le soir. Et la fenêtre qui donne au jardin quand elle attendait son papa.
Lampe à pétrole ?
Ouais, pour sortir la nuit. Donc ce que j'ai dû faire pour aller aux toilettes sèches qui sont dehors. C'est vraiment immersion totale. Donc c'est génial.
Vous êtes scotché par la réplique ?
Ouais. On a regardé hier soir les épisodes à table. On voyait tous les petits détails et tout. Et on se disait, on est dedans, on est à la place pendant leur repas. C'est vrai que ça fait bizarre.
Bon, je vais aller voir Charles et Caroline.
Toujours en faisant attention en descendant.
Alors, Caroline.
Oui.
Vous avez l'impression d'avoir vécu vraiment dans la petite maison ?
Oui, oui. Oh bah oui. J'ai été chercher sur internet la photo de chaque personnage et j'ai fait imprimer ça sur les muffins.
Ah, vous avez fait le dessert, petite maison à la prairie ?
Oui. Ça nous rappelle nos souvenirs de gamins.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge ?
50.
Et vous étiez accro ?
Ouais.
Charles, vous savez jouer du violon ?
Pas vraiment bien. J'ai encore besoin de beaucoup d'entraînement.
Ah, j'avais pas vu la cuisine !
Comme dans la série, la pompe pour faire la petite toilette. On n'est pas habitué à tout ça.
Ça fait du bien de s'évader des contraintes qu'on a aujourd'hui. Quoi.
De s'évader ?
Ouais.
La bulle de la petite maison, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Nelly Olson vous a embêté.
Ah non, elle n'était pas là.
Voici la propriétaire.
C'était bien ? C'était sympa ?
Oui.
C'était rigolo. Bon.
Claire Villani qui n'en revient pas du nombre de réservations.
Non, je pensais pas du tout être complète à ce point-là.
Qui vous loue cette maison ?
Que des fans. Des personnes qui viennent de Béziers, il y en a d'autres qui viennent de Clermont-Ferrand, de partout. Ils arrivent là et c'est... Oh, on s'y croirait, on a l'impression que Caroline est là, que Charles va débarquer, enfin c'est que ça. J'ai des personnes, moi, quand elles viennent ici, elles se déguisent. Ils habillent les enfants, le mari met le chapeau, les bretelles et tout le toutime, là. Donc c'est génial.
génial.
Quant au côté spartiate,
c'est ça qu'ils adorent. Si c'était pour mettre une douche et puis une vraie cuisinière, je vois pas l'intérêt en fait. Faut rester aussi dans ce qui est authentique.
Merci Sandrine Houdin et deuxième épisode des Bonnes Ondes, ce sera demain.
France Inter, le 6-9.
L'actualité de la guerre en Ukraine, c'est en podcast sur l'appli Radio France. Et comme chaque samedi à cette heure-ci, avec Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France, on vous propose d'en découvrir un extrait.
Coucou Isa, ça va? Je suis très heureux que tu sois sain et sauf en rentrant en France.
Pour terminer cet épisode, j'ai demandé une note vocale à Vitaly Kartamichev, qui travaille pour une organisation humanitaire américaine en Ukraine et qui intervient régulièrement dans ce podcast. Jeudi dernier, le 18 avril, on s'est vu à Kiev et Vitaly m'a fait découvrir la cerise ivre.
C'est une sorte de chaîne de bar où on vend une liqueur sucrée chaude à la cerise.
Et pendant qu'on sirotait notre liqueur à la cerise, en échangeant des nouvelles sur la France et l'Ukraine, un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage souriant, est entré dans le bar, un étui à violon à la main. Il venait boire un verre, pas pour jouer, mais les serveuses ont tout de suite demandé au client de se taire et de l'écouter.
Et ce violon a apporté une atmosphère tout à fait magique. Et ce qui compte, c'est qu'il ne voulait pas d'argent, il voulait juste partager sa musique. Isabelle, она редактор подкаста для українського подкаста французького радіо.
Я якби музыкант, але більше якби акторською діяльністю займаюсь. Ну, актор.
Il est musicien, mais il préfère d'être acteur.
Song from it's like soundtrack from Godfather, you know, this film Godfather.
Aujourd'hui, j'ai participé aux travaux du groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé sur les besoins de la population dans les zones situées à proximité de la ligne de front. Et le problème est que de nombreux médecins ont quitté ces territoires, tandis que d'autres qui restent là-bas touchent des bas salaires. Le personnel médical junior reçoit moins de 100 euros par mois, figure-toi. Et un médecin diplômé touche au mieux 300 euros par mois. Alors, il y a des endroits dans les petites villes situées le long de la ligne de front, il ne reste à certains endroits qu'un seul médecin, voire plus du tout. Et c'est pourquoi le travail d'organisation comme celle pour laquelle je travaille actuellement est très important, car nous aidons à faire venir des médecins d'autres pays pour aider la population en Ukraine. Bonne soirée, à plus.
Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est la musique du parrain, jouée par un jeune violoniste dans un bar de Kiev. Cette musique, ces témoignages sont à retrouver dans le podcast Guerre en Ukraine, chaque jeudi sur l'application Radio France.
Il est 6h13 et le 6-9 continue en musique avec une bonne nouvelle. Les fans seront ravis. Le groupe de rock américain Hills fait son grand retour. Leur album doit sortir le 7 juin prochain. Mais on peut déjà écouter ce titre, Goldie, une lettre d'amour à un poisson. Rouge.
I stumbled on a mariner coup. I didn't know what to do. So how did you smoke? Forgot to open the flue and smoke filled up the room.
Goldie, le poisson rouge de Hills, groupe indépendant de Los Angeles, en attendant Hills Time, leur nouvel album en juin 2024.
Le 6-9 sur France Inter.
Les podcasts du week-end, chaque samedi, c'est votre coup de cœur. Bonjour Erwan Gaucher.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, Erwan, vous nous conseillez le podcast Chaud dedans, consacré à un sujet dont on parle peu, la ménopause.
Oui Marion, la ménopause, un sujet sur lequel je ne connais pas grand-chose et pour lequel je ne suis absolument pas légitime. Mais ça tombe bien, puisque ce n'est pas moi qui vous en parle, mais Claire Fournier, journaliste à LCI, qui a écrit ce podcast.
Pour moi, ça a commencé comme ça. Par des sensations un peu désagréables, au bureau, à la maison, dans le métro. Une chaleur qui monte dans le bas du dos, qui s'arrête au niveau du soutien-gorge, qui m'oblige à enlever une voire deux épaisseurs de vêtements. L'impression de transporter un mini hammam portatif qui ne se déclenche jamais au bon moment. La cocotte minute permanente à l'intérieur du cerveau, j'ai mis ça sur le compte de trop de boulot, pas assez de temps pour moi, trop de routine. Le stress, tout le monde connaît ça, non ? Moi qui dormais 9 heures par nuit, j'avais soudain le sommeil perturbé, entrecoupé d'insomnie en général autour de 2-3 heures du matin. La libido dans les chaussettes aussi. Le mot périménopausé a claqué dans le cabinet de ma gynéco.
La ménopause, pourquoi en parler ? Parce qu'on n'en parle pas, justement. 80% des femmes disent qu'elles ne sont pas suffisamment informées sur un sujet qui reste clairement un non-dit de notre société, alors même qu'il concerne 14 millions de femmes en France.
Je suis sortie en pleurant. Putain de gynéco sans une once d'empathie. Ce que je comprenais pas, c'est que personne ne m'en ait parlé avant. La mise en pause de l'ovulation, le bouleversement hormonal, l'immense fatigue, le blues, tout ça pourrait être largement discuté, anticipé, prévu. Mais non. Comme au moment des premières règles pour certaines jeunes filles, les dernières font aussi l'objet d'un tabou. Ça vous classe tout de suite dans une catégorie où personne n'a envie d'être classé. La vieille.
Et donc le podcast Chaud dedans essaye de lutter contre les idées reçues sur la ménopause et on peut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot, Erwan.
Oui, Ali, car au fond, quand on passe sous silence la ménopause, c'est plus globalement le corps des femmes de 50 ans que notre société continue de cacher.
Au moment où il perd sa jeunesse, sa fermeté, il devient invisible ou alors l'objet de trituration esthétique pour le maintenir lisse, ferme, présentable. La vérité, c'est que la société ne sait pas comment regarder les femmes de 50 ans. Et on se retrouve dans un no woman's land, plus tout à fait jeune, pas encore vieille. Pour une énorme foule invisible de femmes, cette étape fondamentale est vécue comme une phase honteuse.
Claire Fournier nous fait donc plonger avec ses invités dans tous les aspects de la ménopause. Avec l'anthropologue et médecin Daniel Delanoë, elle décrypte la construction sociale autour d'un phénomène qui devrait être totalement banal, mais qui reste encore aujourd'hui un tabou. Avec la psychologue Catherine Grangeard, elle s'interroge sur la libido à partir de 50 ans. Avec Valérie Caprisky, elle se demande si les actrices ont le droit de vieillir. Avec l'autrice Élise Thiébaud, elle évoque la libération de la fin des règles. Et en compagnie de l'humoriste belge Véronique Gallo, elle tente aussi de savoir si on peut faire de l'humour sur ce sujet, tout simplement. Pas si évident quand on lit la critique d'un grand quotidien qui estime que le spectacle de Véronique Gallo est triste car après ça, la femme n'a plus de mystère. À cela, Claire Fournier répond on ne peut plus clairement.
La femme n'a plus de mystère. Mais au secours ! Pardon de ne pas nous balader derrière un éventail, de ne pas chuchoter à mi-voix, de ne pas nous retirer du monde au premier signe de vieillissement.
Chaud dedans, un podcast signé Claire Fournier pour Binge Audio à découvrir sur l'application Radio France. Merci Erwan Gaucher.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
6h20 et la première invitée de cette matinale avec vous, Marion. Elle est économiste au cabinet de conseil PwC France.
Bonjour Stéphanie Villers.
Bonjour.
Alors, AA- et AA2, ces chiffres et ces lettres un peu mystérieux, ce sont les notes de la dette française, notes maintenues hier par les agences Fitch et Moody's. Leur décision était très attendue, très redoutée. Ce que ça veut dire, c'est que la dette française est toujours considérée comme sûre par les emprunteurs au plan français et international. Cette décision des agences de notation, elle vous surprend ?
Alors, elle me soulage déjà, parce que finalement, je m'attendais à une dégradation de la note de la part de Moody's. L'autre agence, elle avait déjà dégradé sa note l'année dernière. Donc, je m'attendais à ce que Moody's s'aligne avec Fitch. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, qu'elle maintienne sa note au niveau actuel.
Pourquoi vous dites que ça vous soulage ?
Parce qu'en fait, à partir du moment où les agences commencent à dégrader la note de la France, elles envoient un message un peu inquiétant à l'ensemble des marchés financiers en disant « Attention, la trajectoire prise par la dette publique française n'est pas bonne. » Et donc ça peut inquiéter. Donc tous les messages inquiétants, en fait, sont pas bons à prendre pour la dette française et en particulier pour les taux d'intérêt.
Alors, nos finances publiques, elles vont quand même pas très bien, elles sont dans le rouge, déficit 5,5% du produit intérieur brut l'an dernier, une dette à presque 111% de ce même produit intérieur brut. On est en train de chercher des milliards, nos ministres n'arrêtent pas de les chercher et de le répéter. Comment expliquer que notre dette soit quand même considérée comme sûre et comme en fait valable par les investisseurs ?
Alors déjà parce qu'on fait partie d'une zone économique, la zone euro, avec une même monnaie qui est contrôlée par la Banque Centrale Européenne, avec comme première puissance l'Allemagne. Et l'Allemagne, en fait, a quand même comme image et en réalité est véritablement très rigoureuse dans ses finances publiques, contrairement à nous, la France. Mais ça, globalement, les investisseurs voient la zone euro comme un paquet, un tout.
Est protégé par l'Europe.
On est protégé par l'Europe parce que on est considéré comme faire partie d'une zone extrêmement stable qu'est la zone euro.
Donc c'est ça qui explique que finalement, c'est ce seul facteur.
Et puis aussi parce que bien sûr la France a des atouts et des avantages. C'est la deuxième puissance économique de la zone euro. Que finalement l'année dernière elle n'a pas été en récession contrairement à l'Allemagne. Donc il y a quand même quelques avantages à la France. Tout n'est pas à être, tout ne peut pas être critiqué. Mais quand même on peut pas nier que nos finances publiques sont très dégradées et restent sur une trajectoire inquiétante.
Juste pour bien comprendre ce que vous disiez par rapport aux craintes. Effectivement si notre dette avait été considérée ou est considérée à l'avenir comme risquée. Ça risque d'augmenter nos taux d'intérêt, donc on va prêter plus cher, on va emprunter plus cher, ça va nous coûter plus cher d'emprunter. Le risque pour nous, pour vous, pour moi, c'est quoi ?
En fait, le taux d'intérêt de la dette française, c'est le taux de référence pour l'ensemble des autres taux d'intérêt. C'est-à-dire que
pour mes crédits immobiliers.
Absolument. Donc si ce taux augmente, eh bien, il y aura, par effet ricochet, une augmentation de l'ensemble des autres taux d'intérêt, les taux de crédit immobilier, le taux d'intérêt pour l'investissement des entreprises et ainsi de suite.
Qui sont déjà élevés aujourd'hui.
Oui, qui ont quand même commencé à croître du fait notamment de la hausse des taux de la dette française.
Alors, ce que dit le ministre de l'économie suite à cette décision, Bruno Le Maire, il dit que ça doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République, moins de 3% du produit intérieur brut par rapport pour le déficit en 2027. Est-ce que c'est crédible ça ?
Alors déjà, les agences de notation nous disent non, en fait, c'est trop ambitieux, compte tenu en fait de la feuille de route qui est donnée par le gouvernement pour atteindre ce déficit à 2,9%. Donc je pense que les agences de notation n'ont pas voulu aujourd'hui envoyer un message inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine période électorale avec les élections européennes, il ne faudrait pas rajouter de la tension à la tension. Pour autant, je pense que le gouvernement sait très bien que la menace existe et et que, bien entendu, tout le monde sait que les résultats en matière de finances publiques sont mauvais en France, avec 5,5% de déficit l'année dernière, sachant qu'il n'y a pas eu de choc particulier, que les autres pays arrivent globalement à avoir un déficit en dessous des 3%, c'est compliqué à expliquer vis-à-vis du reste de nos partenaires européens.
Alors, s'il faut rentrer dans ces clous, en tout cas, essayer, même si apparemment les agences n'y croient pas, il y a deux solutions. Faire des économies, augmenter les recettes. Qu'est-ce qui va se passer? Les impôts vont augmenter forcément, alors, même si le gouvernement s'en défend?
Alors non, le gouvernement nous dit bien clairement qu'il ne veut pas toucher cette partie-là, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il y aurait une dégradation de la note de la France. Peut-être que ça aurait été obligatoire pour rassurer les marchés, mais là, comme il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas réellement de risque à court terme, mais on s'attend à des réformes économiques, donc à une diminution de la dépense publique, et encore aujourd'hui, en fait, on voit mal comment le gouvernement veut procéder pour diminuer la dépense. Il n'y a pas vraiment de mesures qui nous laissent croire, nous laissent penser que la dépense publique va pouvoir baisser d'ici 2027.
En tout cas, il va falloir se serrer la ceinture.
Absolument.
Merci Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique au cabinet PwC France. Merci beaucoup d'être venue nous expliquer cette non-dégradation ce matin sur France Inter.
Bonne journée, il est 6h26 sur Inter. Jingle humour.
France Inter.
Et tout de suite, le best-of humour du week-end, le meilleur des humoristes d'Inter cette semaine.
Mathieu Noël.
Je rappelle les faits, le chanteur Kenji Girac, dont les tubes ont bercé Dominique Seux, notamment Color Ritano, qui fait partie de sa playlist Hot Fiesta, qui met le feu à chaque cousinade. Kenji Girac donc a été transporté hier à l'hôpital de Pessac après s'être, selon ses premières déclarations, blessé lui-même en manipulant une arme à feu qu'il venait de chiner en brocante. À ce stade, toutes les pistes sont ouvertes, déclare la police. La première, c'est donc la piste du bête accident domestique. Alors c'est vrai, toutes les statistiques vous le diront. Dans le top 3 des accidents domestiques les plus fréquents, t'as la chute malheureuse dans l'escalier, la gazinière qu'on oublie d'éteindre et en 3, le flingue qu'on achète en brocante et avec lequel on s'amuse en oubliant qu'il est chargé parce que oui, les brocanteurs ont souvent des Colt 45 en état de marche avec des munitions. Contrairement aux armuriers, chez qui c'est beaucoup plus compliqué, il faut une licence pour acheter un gun, mais en brocante, c'est beaucoup plus cool. Ami braqueur qui écoutez Inter, pour votre prochaine Kalachnikov, ayez le réflexe vide-grenier. Hein, c'est très bien.
Rosa Burstein.
Mon oncle Bernard, psy lacanien, était parti dans l'une de ses diatribes sur l'esclavage et la sortie d'Égypte pour dériver vers Hitler et l'orgasme féminin. S'il était un bon psy, je pense qu'il devrait analyser le fait que ces deux sujets reviennent à chaque repas et toujours dans cet ordre. Quand je l'ai interrompu pour rappeler qu'avec le réchauffement climatique, on allait se retrouver à nouveau dans le désert. Plus de mer qui s'ouvre en deux, car plus de mer tout court. Camille Etienne serait Moïse, notre sauveuse, et le rapport du GIEC, l'étape de la loi. Là, ma cousine elle est partie en vrille. Non mais stop Rosa, t'as vu ce qu'il a plu là? Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Si t'es si écolo, t'as qu'à la récupérer la flotte et te laver le cul avec. Négationnisme climatique, insulte sur le physique, mépris de classe, le tout en une phrase. Certes, ma cousine est une connasse méprisante, mais elle a la politesse de le faire avec concision. Certains diraient même avec circoncision.
Daniel Morin.
C'est une bonne idée l'internat, ça empêche de faire des conneries apparemment. On devrait faire ça, mais je pense pour tout le monde. Ben ouais, pas que pour les gosses. Bonjour toi, présente-toi, dis-nous pourquoi t'es ici. Je m'appelle Bruno Le Maire, je suis ministre de l'économie et c'est Gabriel Attal qui m'envoie. Pourquoi? J'ai des problèmes de concentration, je devrais m'occuper des finances du pays, mais en fait je passe du temps et tout mon temps presque à écrire des livres de cul. Bon, pourquoi tu fais ça? Je sais pas, c'est plus fort que moi, je suis comme possédé. En même temps, j'écris hyper bien sur l'amour, ce sera con que j'arrête. Je crois que c'est mon corps qui m'inspire. Je suis gaulé comme un décathlonien et je suis chaud comme une théière. Si je m'assieds sur une chaise en paille, elle prend feu la coquine, tu sais. Là, je bosse sur mon prochain roman, ça se passe dans un EHPAD où l'infirmière en chef met du Viagra dans la soupe des vieux. C'est méga hot, ça va être le succès de l'été, ça va s'appeler « J'ai chaud aux prothèses, Thérèse ».
Le meilleur de l'humour d'Inter, préparé par Juliette Acus.
6h29 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Céline Dacosta, un ciel orageux sur l'ouest du pays.
Oui, avec les premiers orages en ce moment sur le Poitou-Charentes, des averses parfois soutenues sont présentes également des Pays de la Loire vers l'Île-de-France, averses qu'on retrouve également sur les Cévennes. Ciel bien nuageux pour le reste du pays, sauf sur le flanc est, on aura encore quelques éclaircies entre l'Alsace et la région PACA, et ça toute la journée. Vent soutenu qui va s'intensifier dans l'après-midi, surtout surtout sous les orages plus nombreux et potentiellement plus violents, avec des chutes de grêle, des orages attendus principalement sur le sud-ouest, où 8 départements sont en vigilance orange orage, de la Charente au Gers.
Le tout sous des températures un peu plus cléments.
Oui, alors il fait encore un petit peu frais par endroit ce matin sur
mais
la moitié nord. Oui, c'est vrai, je suis réchauffée. Je ne suis pas la seule.
Ali aussi.
Mais peut-être que nous ne sommes pas en extérieur.
Effectivement, 4 degrés à Brest, là on mettrait le pull. Hein. 5 à Nancy, 7 à Nantes, 8 à Lille, mais ça remonte bien cet après-midi avec une moyenne du nord au sud qui sera enfin à nouveau dans les normales de saison, en allant de 13 à Cherbourg jusqu'à 23 à Ajaccio, en passant par 17 degrés à Paris et Bordeaux.
Merci pour votre expertise au service des particuliers, Céline Dacosta. Merci à vous d'écouter Inter, il est 6h30. Le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Après une journée sous tension, le blocus des étudiants pro-palestiniens de Sciences Po a été levé. Le ouf de soulagement du gouvernement, la France échappe à la sanction des agences de notation financière Fitch et Moody's. L'intelligence artificielle en appui dans la lutte contre le cancer. Une découverte chinoise pleine d'espoir pour percer le mystère de l'organe touché en premier. Et puis l'autoroute A13, elle ne rouvrira pas comme prévu le 1er mai. Les étudiants ont levé hier soir le blocage de Sciences Po Paris. Les locaux historiques du 7e arrondissement avaient été investis dans la nuit de jeudi à vendredi par des militants de la cause palestinienne en écho aux contestations qui agitent certains prestigieux campus américains. Ils réclamaient de leur direction des prises de position plus claires sur l'action israélienne dans Gaza et l'arrêt des partenariats avec les universités d'État hébreu. Finalement, dans la soirée, un début d'accord a été trouvé. La France échappe à une dégradation de sa note souveraine. Moody's et Fitch laisse inchangée la note souveraine de la France, malgré la dégradation des finances publiques du pays. Si notre pays n'est pas le meilleur élève de l'UE en matière budgétaire, c'est tout de même une bonne nouvelle pour la France. Elle voit s'éloigner une augmentation des taux d'intérêt qu'exigent les investisseurs pour lui prêter de l'argent. Il va falloir être patient. Une semaine déjà que l'autoroute A13 est vide, aux portes de Paris, fermée dans les deux sens, entre la capitale et Vaucresson, à cause d'un mouvement de terrain et d'une fissure importante. Fermeture prolongée, l'A13 ne rouvrira pas la circulation comme prévu le 1er mai. L'annonce a été faite hier par la préfecture des Hauts-de-Seine et la direction des routes d'Île-de-France qui préfèrent rester prudent. Sarah Ders de France Bleu Paris.
Impossible pour l'heure de fixer une date précise. Les dernières investigations ne permettent plus aux autorités compétentes de s'avancer. La portion fissurée a encore bougé. Des mouvements de terrain très faibles ont été observés. C'est ce que souligne la préfecture des Hauts-de-Seine dans son dernier communiqué. Les experts cherchent de nouvelles solutions au plus vite. Au programme donc des analyses complémentaires et des nouveaux travaux de stabilisation. Les causes de cette fissure sont toujours en cours de diagnostic, précise la direction des routes d'Île-de-France. La sécurité, c'est la priorité, ajoute-t-elle. Une nouvelle communication est attendue lundi et le calendrier de réouverture de la 13 précisé promet la préfecture.
Et puis Laurence, c'est une découverte très intéressante dans la lutte contre les cancers.
On le sait, les solutions thérapeutiques dépendent en grande partie de l'origine de la première tumeur, c'est-à-dire de l'organe touché en premier. Or, pour certains cancers détectés à un stade avancé, ce point de départ est parfois impossible à identifier. Ces cancers dont l'origine reste un mystère sont appelés cancers primitifs inconnus. Ils touchent chaque année 7000 patients en France. Conséquence, pour eux, les options de traitement sont rarement optimales. Mais Victor Delande, l'intelligence artificielle pourrait permettre de retrouver ce premier organe touché. Et ce sont des chercheurs chinois qui sont à l'origine de cette découverte.
Pour ces patients dont on ne connaît pas l'origine des métastases, les médecins préconisent des chimiothérapies à large spectre pour essayer de cibler le maximum d'origine possible. Mais ces thérapies un peu à l'aveugle fonctionnent très mal. Quelques mois de survie à peine pour ces malades. Les chercheurs chinois ont donc utilisé l'intelligence artificielle pour étudier des prélèvements liquides des patients. Sarah Watson, oncologue médicale et chercheuse à l'Institut Curie.
On sait qu'on a un certain nombre de patients qui se présentent avec ce qu'on appelle des épanchements du liquide dans l'organisme à certains endroits. Ça peut être dans le poumon, ça peut être dans le ventre. Et on peut prélever ce liquide et très souvent, on retrouve des cellules cancéreuses au sein de ce liquide. Donc l'idée que les chercheurs ont eue, c'est d'analyser ce liquide et de se dire peut-être que l'aspect des cellules présentes dans le liquide, ça va donner un signe de l'origine du cancer.
Une intuition payante puisque l'algorithme a réussi à identifier l'origine des cancers dans 80% des cas. Sarah Watson, elle-même créatrice d'une intelligence artificielle concurrente, pense déjà à l'étape d'après.
Ce qu'on est en train d'essayer de développer, c'est des outils qui vont être multiparamétriques. On va essayer d'apprendre à l'outil à travailler sur différents types de données, à la fois des données d'image, donc par exemple l'aspect des cellules, mais à la fois les cartes d'identité génétique pour être encore plus performant.
Avec à terme toujours la même volonté, connaître le plus tôt possible l'origine d'un cancer pour adapter le traitement avec plus de chances de réussite.
Victor Dolande. Raphaël Nadal s'accroche à son dernier rêve. Il ne lui reste plus que 2 tournois avant de s'attaquer à Roland-Garros. Objectif prioritaire de sa saison. D'ici la Porte d'Auteuil, le tournoi de Rome. Et en ce moment, comptera au deuxième tour l'Australien Alex de Minaur, le même qui l'avait éliminé la semaine dernière à Barcelone. Fabrice Abgral.
Ce que recherche Raphaël Nadal avant tout, c'est jouer, disputer des matchs pour retrouver le rythme de la compétition. Parce que pour lui, le plus important, c'est d'être prêt dans un mois.
Mon objectif final est de me donner une chance d'être compétitif à Roland-Garros, mais aujourd'hui je n'en suis pas capable. J'espère être prêt dans quelques semaines et je vais tout faire pour, vraiment.
Raphaël Nadal avoue aisément désormais qu'à 37 ans, il n'a plus le physique pour continuer. Il va arrêter cette année, mais quand ? Tout dépendra de son corps. C'est ce que dit Gilles Simon, l'ex numéro 6 mondial.
Quand ça bascule, c'est d'un coup, c'est net. On sait que le moment où ça va s'arrêter, ça va faire boum, fini. Et c'est pas lui qui décidera s'il peut faire un des Jeux Olympiques ou machin. Il va essayer, bien sûr. Il va s'entraîner. Par contre, faut quand même pouvoir aller un moment physiquement, jouer, courir. Et si tu peux pas le faire, et ben c'est l'arrêt de carrière. Et c'est comme ça.
Mais ça, Gaël, mon fils, ne veut pas y penser.
On a envie de le revoir briller. On a envie de le revoir guerrier comme il a toujours été. Donc, je reste patient.
La plus belle fin pour Raphaël Nadal, ce serait laquelle ? Roland-Garros, les Jeux Olympiques ou ailleurs.
La plus belle fin pour lui, ce sera quand lui l'aura décidé.
Et ce sera peut-être à Berlin, où Nadal disputera la Lever Cup du 20 au 22 septembre prochain. C'est peut-être là, en effet, dans cette exhibition par équipe, qu'il terminera sa carrière comme l'a fait Federer en 2022.
Fabrice Abgral, et puis l'eau et le feu, la flamme olympique désormais aux mains de la France, va embarquer ce matin à 9h30 à bord du 3 mâts, le Belém, pour rejoindre Marseille le 8 mai, avant d'entamer ensuite son voyage à travers la France. Hier en Grèce, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, a annoncé que le nageur Florent Manoudou sera le premier porteur de la flamme à son arrivée dans la cité phocéenne.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre dans la prochaine demi-heure, un serpent terrifiant dans Les Saventuriers. À 6h45, la revue de presse. Laetitia Bernard grimpe aux arbres, ça sera dans la chronique Regard croisé. Et juste avant 7h, le temps des séries nous parle du dernier carton Netflix.
France Inter, 13h20, Jacques Monin.
Ce samedi, enquête sur l'ultra-droite de plus en plus active. Pendant près de 6 mois, nous avons observé ces militants sur les réseaux sociaux pour comprendre qui ils sont et comment ils s'organisent.
Secret d'info, tous les samedis à 13h20 sur Inter.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, 6h38.
Le 6-9. Marion Lourd, Ali Badou. Sur France Inter.
Tout de suite, les aventuriers, l'actualité des sciences comme chaque semaine avec Daniel Fievet. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Aux États-Unis, des milliards de cigales vont sortir de terre dans les semaines à venir.
Oui, c'est un phénomène extrêmement rare auquel vont assister les habitants du Middle West et de l'Est des États-Unis. Les milliards de cigales qui vont émerger du sol ne sont pas des cigales annuelles comme celles du sud de la France, mais des cigales périodiques. Elles vivent sous terre à l'état larvaire et sortent pour entamer leur mue tous les 13 ou 17 ans. Or, cette année, 7 espèces différentes de cigales périodiques vont sortir en même temps. Ça ne s'était pas produit depuis 1803 et selon l'Université de l'Illinois, ça ne se reproduira pas avant 2245. Pour les scientifiques, l'événement est une formidable occasion pour étudier ces insectes particuliers que l'on trouve seulement en Amérique du Nord.
Mais malgré tout, ça inquiète quand on entend une nouvelle pareille. Et pour les habitants de ces régions de l'Est et du Midwest des États-Unis, cette invasion de cigales ne va pas poser de problème.
Alors, les scientifiques se veulent rassurants. Contrairement aux criquets qui peuvent ravager la végétation, les cigales ne mangent pas les feuilles des plantes. Elles prélèvent un peu de sève sur les végétaux pour se nourrir. La croissance des arbres et les rendements de certaines récoltes pourraient donc être affectés légèrement par cette émergence massive de cigales. Mais certains oiseaux vont en profiter et se régaler. Les chercheurs précisent que ces insectes sont inoffensifs pour pour les humains et les animaux domestiques. Peut-être pas pour leurs oreilles. Le volume sonore des chants entremêlés devrait être comparable à celui d'une moto.
Ah oui.
Il faut s'attendre à ce que ces milliards de cigales fassent vrombir les paysages aux États-Unis dans les prochaines semaines.
Elle aussi, elle va peut-être vrombir après des mois de silence. La sonde Voyager 1 donne enfin de ses nouvelles.
Oui, c'est un gros ouf de soulagement pour la NASA. Cette sonde est l'objet fabriqué par les humains le plus éloigné de la Terre. Elle a quitté notre planète il y a un peu plus de 46 ans. Elle se trouve maintenant aux confins de notre système solaire, à environ 24 milliards de kilomètres de nous. Mais depuis novembre dernier, Voyager 1 n'envoyait plus de données techniques ou scientifiques lisibles. Autrement dit, nous n'avions plus d'informations sur son état de fonctionnement et sur l'espace interstellaire qu'elle traverse.
Et on sait quel était le problème exactement ?
Alors, les instruments de la sonde fonctionnaient toujours, mais les données enregistrées n'étaient plus correctement mises en forme. Voyager 1 nous envoyait donc un charabia incompréhensible. Le dysfonctionnement était lié à un problème sur une puce de l'un de ses ordinateurs de bord. Après plusieurs mois de travail, les équipes de la NASA sont parvenues à développer un petit programme informatique permettant de contourner la puce défaillante. Ils l'ont envoyé à la sonde. Ce dépannage à grande distance était périlleux. Il faut 22 heures pour que les instructions qui voyagent à la vitesse de la lumière arrive au vaisseau et les réponses mettent le même temps pour nous parvenir. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Cette semaine, l'agence spatiale a annoncé avoir enfin reçu des données lisibles sur l'état de santé de la sonde. Il y a bon espoir que la même solution permette de récupérer les données scientifiques dans les semaines à venir. L'aventure continue. Voyager 1 n'a pas fini de nous envoyer ses cartes postales cosmiques.
Et pour finir, Daniel, vous nous expliquez que, comme nous, les poules peuvent rougir d'émotion.
Oui, les chercheurs de l'INRAE ont filmé pendant 3 semaines, 6 poules dans un verger de Val-de-Loire. Ils ont ensuite analysé les images avec un logiciel permettant d'évaluer automatiquement l'intensité du rouge de la peau des gallinacées autour des yeux et du bec. Le résultat est sans appel. Comme les humains, les poules piquent des phares. La rougeur de leur peau varie en fonction de leur excitation, qu'elle soit positive ou négative. Alors, ce qui les fait rougir n'est pas forcément ce qui nous donnerait à nous la chair de poule. Par exemple, le rose leur monte aux joues devant un appétit tissant verre de farine,
oui.
Et elles deviennent écarlates, confrontées à une expérience négative comme une capture. Les chercheurs ont aussi constaté que des poules habituées à un humain conservaient une peau plus claire en sa présence, ce qui traduit un état calme et serein. Selon l'INRAE, ces résultats pourraient servir à développer des outils pour évaluer le bien-être animal.
C'était les Saventuriers, merci Daniel Fievet.
6h42 sur France Inter, dans un instant, la revue de presse, mais pour l'heure, on part avec la chanteuse, rappeuse Martine Nikaise Meryl, et on écoute l'un de ses tout derniers titres. Elle nous emmène en voyage avec Dernière Escale.
La seule fois où je suis derrière, c'est quand il y a la famille d'abord. De l'eau sur de l'encre à Salila. Quand on a trimé d'abord, faut donner la compte. Appel de farfauté qu'à la droite. On rentre à 10, on ne paie pas la boîte. La taille est chère, on paie pas à 4. Eux, c'est mes gosses, mais je n'ai pas la garde. Du coup, ils veulent me terminer. Ils n'ont eu droit à aucune attention. Combien de liens j'ai délié. Y'a toujours la salope qui chante ma chanson. Elle me donne 1, 2, 3, 4 tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la peau. Ils paieront jamais, mais un pauvre CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de vœux. Si tu arrêtais ta joie du feu, commence depuis l'adolescent. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Chez nous on ne faisait pas de feu. C'est toi le fil à contre-sens. Si tu arrêtais ta joie du feu, commence depuis l'adolescent. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Les problèmes infinis sont majeurs, dans son mauvais héritage. J'aime pas les paiements pas à jour, pas dans le bonheur qu'on apprend à nager. Dans quelques jours, quel que soit le prix, faut bien que tu comprennes, ça sera pas cher. Faut construire les murs, j'empile caché. Si tu m'entends plus, vérifie catch. Plus de 1000 feux, je porte du vrai. C'est avec ce papier que ces larmes, j'ai sort. Comme on se vient, tout le soleil se lève. Avec tes défaites, chasse rêve. Elle me donne 1, 2, 3, 4 tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la peau. Ils paieront jamais, mais un pauvre CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de feu. C'est toi le fil à contre-sens. Si cœur était un choix du feu, commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars.
on ne faisait pas de feu. Si je cœur était un choix du feu, j'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant caressez-nous les stars, les stars, les stars.
Dernière escale de la rappeuse Meryl dans la playlist France Inter. Elle sera au festival We Love Green le 31 mai à Paris. Et elle entame fin juin une grande tournée des festivals à travers toute la France.
Merci d'écouter Inter, il est 7h moins le quart.
Le 6-9 sur France Inter.
Le kiosque de la matinale. Bonjour Karine Bécard.
Bonjour à toutes et à tous.
À la une des journaux ce matin.
Vous trouverez nos téléphones portables à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui nous assure que les parents seraient aujourd'hui prêts à faire de la résistance pour tenter, vous l'aurez compris, de détourner un peu leurs ados, en tout cas les moins de 15 ans, de leur téléphone portable. Vous apprendrez notamment que 46%, c'est énorme, des 6-10 ans sont déjà équipés d'un smartphone, mais les parents seraient donc en train d'essayer de reprendre les choses en main, c'est à lire dans le quotidien francilien de ce matin. Et pour les occuper, ces ados, pourquoi pas les initier à la pêche. Ça, c'est la une un peu surprenante du journal de Saône-et-Loire. La pêche qui serait davantage pratiquée dans ce beau département du sud de la Bourgogne que le football, avec quelques chiffres à l'appui évidemment. Sur les 34 000 amateurs de pêche, donc en Saône-et-Loire, 20%, 6 500 précisément, ont moins de 18 ans. Et la moitié d'entre eux ont même moins de 13 ans. C'est tout simplement impressionnant. Voilà, je vous appréciais, Ali, j'en étais sûre. Sinon, et c'est à ne pas manquer, les confidences de l'actrice française Juliette Binoche. Pour Libération ce matin, elle revisite une partie de son long parcours, ses débuts en particulier, qu'elle raconte forcément à la lumière. Aujourd'hui, de la révolution MeToo, on y découvre toutes ces scènes de nus, tous ces rôles systématiquement sexualisés, toutes ces agressions sur les tournages, des blessures, raconte la comédienne aujourd'hui. Le Figaro, lui, préfère revenir sur la cérémonie d'hier de transmission de la flamme olympique à la France. Ça y est, c'est fait. Et puis pour finir, vous verrez à la une du journal La Provence, le sourire concentré, mais le sourire tout de même du nageur Florent Manaudou, 4 fois médaillé olympique et qui sera donc le premier porteur français de la flamme dans 10 jours à Marseille.
Et quel est votre choix du jour, Karine ?
Eh bien, c'est un choix sportif parce que je découvre ce matin le malaise de plus en plus grand des équipes médicales au sein des clubs de foot. Alors, que se passe-t-il exactement ? Eh bien, plusieurs de ces médecins ne se sentent plus respectés. Leurs diagnostics, si vous préférez, ne sont plus toujours écoutés, avec des joueurs de plus en plus souvent qui sont priés de retourner sur le terrain sans être complètement soignés. Les résultats, les performances, les enjeux financiers priment de plus en plus visiblement sur la santé des joueurs et c'est en train de devenir insupportable pour les staffs médicaux qui s'en vont parce que cela devient de plus en plus dur pour eux de résister. C'est passionnant, vraiment, et c'est à lire, que l'on soit sportif ou pas, dans le journal L'Équipe.
Xavier Le Herpeur a l'air fasciné, effectivement. Merci Karine Bécard.
Oh, papa goûté même.
On vous retrouve à 9h moins le quart pour la revue de presse complète.
Regard croisé ce week-end avec le défenseur des arbres, que certains surnomment l'écureuil, le militant Thomas Braille. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour Marion, bonjour Ali.
Thomas Braille, c'est lui qui se perche en haut des arbres pour empêcher qu'ils ne soient abattus. Il est notamment l'un des visages de la lutte contre l'autoroute A69, cette autoroute entre Toulouse et Castres. Et Laetitia, vous êtes allée le rencontrer chez lui, justement, près de Castres.
Au milieu des arbres, ça ne vous surprendra pas beaucoup.
Non.
L'arboriste grimpeur continue d'exercer son métier, mais il est aussi de plus en plus appelé à l'aide dès qu'un arbre est menacé. D'ailleurs, il a fondé le Groupement National de Surveillance des Arbres.
Laetitia, vous êtes journaliste et non-voyante, et dans ce premier épisode, Thomas Braille a accepté de vous faire grimper dans un arbre.
Thomas Braille, il y a une question que je pose d'abord à tous mes invités. Est-ce que vous voulez bien nous dire à quoi vous ressemblez physiquement, s'il vous plaît?
Alors, je fais 1m83, j'ai une silhouette assez élancée, je suis brun, j'ai des yeux marron-vert, et puis j'ai... une barbe de 3 jours tout le temps et voilà, et des cheveux courts, voilà.
Vous avez équipé un arbre pour moi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc je viens d'équiper un frêne. à peu près 8 mètres, je l'ai équipé. Voilà, pour te faire sentir un petit peu les sensations de ce que c'est que d'être accroché à une corde et à un baudrier. Comme ça, tu seras au plus près de ce que moi je vis quotidiennement, de par mon travail et de par les actions que je mène quand il faut défendre des arbres avec le groupe national de surveillance des arbres.
Alors, on va aller voir
voilà.
Ça.
Allez, on est parti. Voilà, donc là, on est dans la prairie. Là, face à toi, à 10 mètres, ouais. Tu as 3 moutons. Sont mes tondeuses naturelles, zéro impact carbone. Voilà. Donc là, ils te suivent, tu vois, ils sont à droite.
Ah, ça sent super bon ici.
Ouais, il y a des bonnes odeurs ici. Il y a pas mal de plantes aromatiques que je mets.
C'est ça.
Pour préserver les fruitiers, les plantes tomates et tous les...
Et là, on sent vraiment... Ils sont un peu au-dessus de nous, là, les arbres.
Voilà.
On capte toutes les masses.
Exactement. Et là, regarde, je vais te faire sentir. Garde ta main comme ça.
Ouais,
Regarde, encore. Hop, et voilà.
Ah, ça, c'est une corde.
Et descends ta main un petit peu.
Et en dessous de la... Non.
Voilà.
Ça, c'est les mousquetons, d'accord.
On appelait ça un zigzag, quoi. C'est un bloqueur, quoi. Voilà.
Ah, et en fait, ça va permettre d'atteindre...
Ça va te permettre de monter et ça va te permettre, une fois que tu vas appuyer dessus, de redescendre.
Voilà. Et l'arbre, il est où?
Il est à ta droite.
Là.
Voilà.
J'arrive pas à faire le tour avec mes bras. Il a plein de... C'est de la mousse, oui, il a plein.
Exactement.
De ouais.
Il est bien protégé, tu vois. La mousse, c'est important. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, tu peux toucher le pied. Tu t'apercevras qu'au niveau du pied, il en a.
Ah, il y en a beaucoup plus.
C'est complètement bardé.
Ah oui, c'est complètement. Ah,
c'est ces petits chaussons, ça.
Mais oui.
Petits chaussons pour l'hiver et sa protection pour le soleil l'été aussi. Ok. Tac. Ouais. Voilà. Allez, maintenant, tu t'assois dans le baudrier. Allez, super. Voilà. Et là, est-ce que ça va pour toi?
Oui, ça va. Ça me fait juste bizarre de me balancer.
Voilà. Donc là, ce que tu vas faire maintenant avec tes jambes, tu vas faire des tout petits pas comme si tu marchais. Jambe droite, jambe gauche. Et toi, droite. Allez, c'est parti. Jambe droite, jambe gauche. Voilà. Maintenant, l'autre. Ouf. Voilà, super.
Ok.
Allez, l'autre.
Ok.
Super. Bravo, t'es parti.
Vas-y. Ça peut pas lâcher, ça?
Non, tout tient. Allez. Voilà, super. Très bien. Tu te réassois dans le baudrier.
Okay.
Assieds-toi, lâche tes bras, n'aie pas peur. Et là, tu restes assise, là.
Ok.
Voilà, profite. Voilà, prends le temps. Là. Est-ce que ça va dans le dos? Ça te fait pas mal?
Non, pas du tout. Ça va. C'est plutôt nerveux, en fait.
Ouais. Mets ta main sur l'arbre à droite, je te fais pivoter. Mmh. Hop, regarde.
Oh, salut.
Et là, tu le tiens. Là. Voilà, tu le touches, comme ça te permet d'avoir une sensation de ne pas être dans le vide, quoi. Voilà.
Et donc, vous faites ça tous les jours, tout le temps? Ah, c'est votre métier.
C'est mon métier, oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Et en fait, il consiste en quoi ce métier arboriste grimpeur? Ça veut dire quoi?
On est vraiment, on est plus sur du soin à l'arbre et sur le bien-être de l'arbre. Si aujourd'hui on a des problématiques sur la planète avec des réchauffements et des canicules, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres et que les arbres vont pas très bien.
Mais comment on fait attention à un arbre, en fait?
Alors déjà, avant de grimper un arbre, je lui demande toujours l'autorisation. C'est la moindre des choses, déjà, mentalement, quoi. Mmh. C'est quelque chose qui se mentalise. Parce que pour moi, c'est un être vivant, c'est prouvé aujourd'hui, j'apprends plus rien à personne. Hein. Il a un cycle, il vit, il met des feuilles, il n'en a plus, il grandit, il grossit, sauf qu'il n'a pas la parole. Et après, travailler le plus précautionneusement avec lui, c'est faire de la purge de bois mort sur les domaines publics, chez les privés. C'est faire du diagnostic, regarder s'ils vont bien au niveau s'il n'y a pas des champignons, s'il n'y a pas une dangerosité.
D'accord.
Voilà, c'est tout ça, quoi.
Ok. On est pas mal, en fait. Alors, je suis pas très haut, mais ça va.
Merci Laetitia Bernard, c'était les regards croisés. On vous retrouve demain pour le deuxième épisode. Il est 6h53, l'heure de retrouver Xavier Le Herpeur. Bonjour Xavier.
Bonjour Ali, bonjour Marion.
La vie des séries.
Une première série du matin pour se mettre en appétit, Parasite The Grey, le carton du moment sur Netflix.
Et tout débute comme il se doit dans ce genre de série, destinée majoritairement à un public adolescent, Ali Badou, regardez-moi, par une scène bien marquante et bien sanglante. Un concert en plein air est perturbé par la chute de petites sphères apparemment inoffensives, mais qui se révèlent être en réalité des parasites extraterrestres. Et ouais, c'est pas de peau. Contaminé par l'une de ces méchantes bébêtes, un jeune homme se transforme à vue en une créature mortifère capable de faire sortir de sa tête des tentacules géantes qui vous transforment en moins de 10 secondes un corps humain en un beau tartare bien frais. Un peu plus loin, après avoir été agressée et blessée, une jeune femme est également attaquée, mais étrangement, elle parvient à juguler l'agression, devenant malgré elle, un hybride humain parasite. Sera-t-elle celle par qui notre salut viendra ? Bah, il y a urgence, car les parasites veulent nous transformer en garde-manger géant.
Je suis le parasite qui vit en toi. Si nous n'avions pas fusionné, toi et moi, nous n'aurions pas survécu.
Les humains font des recherches sur nous. Ils nous traquent et utilisent nos semblables pour nous éliminer.
De quelle espèce es-tu ? Tu as fusionné avec un être humain ?
Tu es forte pour imiter les humains.
Qu'importe, tu es une menace.
Tu t'en es toujours pris plein la gueule, toi, on dirait. T'en serrer les coudes.
Bon, bah, Xavier, a priori,
ça fait peur.
Ça va nous laisser un peu de temps de cerveau disponible quand même, non ?
Absolument, mais ça marche irrésistiblement. Adaptation éponyme du manga de Hitoshi Iwaki, édition Glénat en France, au cas où vous seriez intéressé, et transféré en terre coréenne. Eh bien, cette série est terriblement efficace et addictive. Ça découpe, ça gicle, ça décapite. C'est vrai que Marion a ponctué la bande-annonce de « Oh là là !» Effectivement, c'est un tout petit peu ça, que de la poésie. Mais comme beaucoup de productions du matin du pays, pardon, du matin calme, elle ne peut s'empêcher de saupoudrer sur cette intrigue horrifique une méchante dose d'esprit mécréant dont la société coréenne fait ici les frais, malmenée par une écriture qui brocarde le poids de la religion chrétienne, les inégalités sociales, la violence endémique de la police, ainsi que l'autocratie de la classe politique. Alors c'est évidemment filigrane, planqué au second plan, comme un second degré, mais c'est indubitablement présent. La série est un carton sur Netflix, comme vous l'avez dit, sans doute parce que le plaisir régressif est décuplé ici par un mauvais esprit retors tout à fait jouissif, grâce aussi à la mise en scène survoltée de Yen Sang-ho, auteur au cinéma du absolument génial Dernier Train pour Busan.
Et après la Corée du Sud, direction la Suède, Xavier, les années 80 avec Dreaming of England, c'est disponible sur Arte.com.
Back to the 80s, donc, avec cette série en 6 épisodes qui se déroule à Braxinge. Je ne sais pas si je prononce très très bien, petit hameau n'ayant pas grand chose pour lui. Léna, 16 ans, rêve de partir en Angleterre pour un voyage linguistique, mais n'a pas le fric pour cela. Alors, pour essayer de trouver un peu de fric, elle écoule avec sa meilleure copine un stock de journaux porno invendus auprès de ses très priapiques copains de classe.
Logique.
Pardon ?
Logique.
Bah, logique. Elle a raison de toute façon. De son côté, sa grand-mère organise la fête de la saucisse. Ironie du sort, car elle rêve de réveiller celle de son mari qui, arrivé à un certain âge, n'est plus vraiment concerné par la chose. Quant à la mère de Léna, elle aimerait bien retrouver l'amour, mais hélas, le seul garçon de son entourage qui vaille un peu le coup n'est attiré que par les garçons. Bah voilà, c'est raté, c'est pas de peau. Une série malicieuse ponctuée par la pop new wave et les coupes mulées de l'époque qui reviennent, faites attention, planquez-vous, mais qui derrière son humour féministe et émancipateur se souvient des crises de cette époque comme celle du chômage en hausse et du sida à belle manière de nuancer l'humour caustique d'un zeste d'amertume.
Merci Xavier Le Herpeur. Parasite the Grey, c'est donc sur Netflix et Dreaming of England sur Arte.tv. À la semaine prochaine Xavier.
Avec plaisir.
Du 26 avril au 8 septembre, venez découvrir l'exposition Olympisme, une histoire du monde. Une traversée historique et sportive, des combats et exploits qui ont façonné les Jeux et notre époque. Revivez 130 ans d'Olympiade au rythme de portraits d'athlètes, d'images mémorables et d'objets exceptionnels. Olympisme, au Palais de la Porte Dorée à Paris, en partenariat avec Radio France.
Affaires sensibles, l'émission emblématique de France Inter, présentée par Fabrice Drouel, revient sur France 2 tous les dimanches à 15h05.
Qu'elle soit criminelle, politique, sociale ou historique, déjà résolue ou encore mystérieuse, les histoires que je vous raconte chaque dimanche ont marqué leur époque. Elles nous ont émus, instruits, touchés ou choqués. Elles sont devenues des affaires sensibles.
Affaires sensibles, tous les dimanches à 15h05 sur France 2, en partenariat avec l'INA.
Bon réveil sur Inter, il est 6h58.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Céline Dacosta, les températures remontent enfin ?
Oui, après une séquence bien fraîche qui aura quand même duré 11 jours, on va revenir cet après-midi à des valeurs de saison. La moyenne ira de 13 à 23 degrés du nord au sud. Alors ce matin, c'est encore un petit peu frais par endroit, mais on n'a plus de gelée. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les viticulteurs et les producteurs de fruits, même si par endroit, le gel a déjà fait des dégâts irréversibles.
Les agriculteurs sont aussi sur le qui vivent encore avec les orages aujourd'hui.
Oui, surtout dans le sud-ouest où 8 départements sont en vigilance orage, pour donc orange pour des orages qui seront forts et attendus cet après-midi sur les départements. Ouais, je me mets des difficultés toute seule. Sur les départements de la Charente, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne, le Tarn et Garonne, voilà les départements concernés. La vigilance peut évoluer évidemment dans la journée. C'est là que le vent et surtout la grêle peut faire à nouveau des dégâts. On attend des rafales jusqu'à 100 km/h sous ces orages qui vont remonter jusqu'en Île-de-France et Normandie en soirée, en perdant en intensité. En attendant, ciel couvert sur les trois quarts du pays, des averses déjà orageuses ce matin entre le Poitou et les Pays de la Loire. Il reste quand même des éclaircies, elles seront pour le flanc est aujourd'hui.
Céline Dacosta pour la météo. Les rendez-vous dans la prochaine demi-heure à 7h11. Zoom sur la réforme annoncée du droit du sol à Mayotte. Le compositeur des plus grandes musiques de films est dans la chronique de Laurent Delmas. Il y aura bien sûr aussi la main verte d'Alain Barre.